Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est notre 7e pour la 8e saison et nous recevons aujourd'hui Sébastien Plat, sénateur de l'Aude. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur le sénateur. Alors, un petit rappel succinct de votre parcours politique. D'abord, vous avez été élu sénateur il y a à peu près une année, on va y revenir.
Exactement, oui.
Mais auparavant, vous aviez une longue expérience, on peut dire, notamment d'élu de proximité, en étant, entre autres choses, maire de la commune de Duillac-Peyre-Pertuse, et puis également alternativement conseiller départemental, régional également. Bon, voilà. Puis à un moment, vous franchissez le pas, vous entrez dans la politique nationale et le Sénat. Alors le Sénat, je pense qu'il serait intéressant, monsieur le sénateur, que vous vous transformiez peut-être un petit peu en professeur pour faire un peu de pédagogie, parce que on a l'impression que peut-être vous me contredirez, je ne sais pas, mais que les électeurs ou les citoyens connaissent assez mal le Sénat ou en ont des idées qui peuvent vous sembler fausses.
Alors, je voudrais pas offenser les professeurs, les instituteurs. Je n'ai pas leurs compétences, mais effectivement, vous avez raison de souligner cette affaire. Bon, le premier, dans ma jeunesse, je pensais que le Sénat, c'était quelque chose de très compliqué, très loin. Je n'arrivais pas à savoir ce que c'est. En fait, non, en étant depuis un an en siégeant au Palais du Luxembourg, j'ai vraiment pris la mesure de l'importance pour une démocratie républicaine comme la nôtre, éclairée, d'avoir une chambre haute qui fonctionne et qui soit aussi importante que le Sénat en France, pour la bonne et simple raison que aujourd'hui le Sénat est une structure qui, au-delà du fait de proposer des lois, de fabriquer des lois, de modifier des lois, est une structure aussi qui contrôle l'action du gouvernement. Et lorsque vous venez de passer, et nous y sommes encore un petit peu, dans un épisode du Covid et de crise sanitaire, le Sénat a tenu son rôle de contrôle de l'action lorsque, parfois, notamment au ministère de la Santé, nous avait raconté des histoires au sujet du masque.
Ouais.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais, en arrière.
Tout le monde s'en souviendra.
Il ne fallait pas porter de masque, alors qu'aujourd'hui, c'est effectivement la solution la plus efficace pour se parer du virus.
Et
c'est
alors
une commission d'enquête sénatoriale qui a soulevé le lièvre et le fait qu'en fait, les stocks stratégiques de masques qu'il y avait en France étaient périmés, tout simplement.
Voilà.
Donc il faut dire la vérité aux Français. Et le Sénat est là pour ça.
Oui, là, on entre en plein dans une action concrète. Mais sur la théorie, un Sénat ou une deuxième chambre, ça existe à peu près dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Et ça a à peu près le même rôle, c'est-à-dire celui d'un modérateur par rapport à la première chambre qui est l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le ressentez comme dans ce rôle-là également en France aujourd'hui?
Oui, tout à fait. C'est une grosse différence entre les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée est obligée de réagir dans l'immédiateté, très rapidement, les députés, et je les plains parce qu'ils ont souvent le micro tendu, et il faut de suite qu'ils commentent et qu'ils réagissent à l'actualité, au projet de loi, alors qu'au Sénat, nous travaillons avec beaucoup plus de recul et de temps d'expertise. Donc c'est une structure qui nous permet d'étudier les projets sur le fond, les projets de loi, et de prendre le temps d'auditionner, le temps de peser le pour, le contre des décisions qui, demain, vont s'imposer à l'ensemble des Français. Voilà, la différence, c'est le pas de temps et c'est le fait de surmédiatiser aujourd'hui l'action de l'Assemblée nationale et l'action du gouvernement qui fait que voilà, le pas de temps dans la réflexion n'est pas le même. Et puis le Sénat a toujours été, dans l'histoire de France, le gardien des institutions républicaines et le gardien de notre démocratie. C'est la structure qui, in fine, contrôle toute l'action du gouvernement, mais aussi contrôle toute l'action de toutes les entreprises publiques françaises que nous auditionnons régulièrement. Par exemple, il y a un sujet important en ce moment, c'est la question de l'augmentation du prix de l'énergie. Et nous avons auditionné, pas plus tard qu'avant-hier, le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, en lui posant un certain nombre de questions pour voir comment réformer cette règle européenne du calcul du prix de l'énergie qui est basée sur le prix du gaz et qui fait flamber aujourd'hui le prix de l'électricité nucléaire qui est censé pas coûter très cher en France. Donc le Sénat est là pour tenter de trouver des solutions pour préserver l'intégrité de notre pays.
Donc on le voit, Sébastien Pla, un autre exemple concret que vous venez de citer. Et alors, l'image fausse, ou en tout cas pas très exacte, qu'en ont souvent les électeurs ou les citoyens, c'est peut-être dû aussi au fait que le système électoral est indirect, on ne vote pas au suffrage universel. Est-ce que comment ça se passe pour vous avec votre expérience maintenant d'un peu plus d'une année ?
Le système électoral est basé sur l'élection indirecte, c'est-à-dire ce sont les élus, les maires.
Ce qu'on appelle les grands électeurs.
Les grands électeurs, voilà, les maires, les adjoints, certains membres des conseils municipaux, les conseils régionaux, départementaux, qui sont élus par le peuple français et qui œuvrent tous les jours à la mise en œuvre des lois qui sont fabriquées par les parlements. Donc le sénateur représente les grands électeurs qui, eux, sont dans l'obligation quotidiennement d'appliquer ces lois, de faire fonctionner leur collectivité. Donc il est logique que nous soyons représentés par, que nous soyons élus par ces grands électeurs. Si demain nous sommes élus au suffrage universel direct par les citoyens, enfin bon, moi je vois pas d'inconvénient, hein, je suis profondément réformiste, il n'y a aucun souci. La problématique, c'est que peut-être que nous nous retrouverions avec des sénateurs un petit peu déconnecté des réalités des décideurs territoriaux. D'où la différence avec l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, le système fonctionne, je pense, de mieux en mieux parce que il y a eu cette loi sur le non-cumul des mandats qui oblige du coup, qui permet aux sénateurs et aux députés d'ailleurs de se consacrer pleinement à leur mandat. Donc nous avons des élus qui ont une expertise relativement importante et qui ont tout leur temps pour travailler sur leur projet de loi, sur le fonctionnement du Sénat, de nos institutions. Alors que par le passé, lorsque vous cumuliez à la fois la fonction de maire, de président d'intercommunalité ou de syndicat et sénateur, je ne comprends pas comment ils faisaient. Oui. Je vous le dis sincèrement. Moi, j'ai jamais été au-delà de deux mandats consécutifs, c'est-à-dire maire conseiller départemental ou maire conseiller régional. Déjà, j'avais du mal à m'en sortir. Là, aujourd'hui, je vous garantis que le travail parlementaire, qu'il soit à l'Assemblée ou au Sénat, c'est du 80 heures par semaine, sans problème, hein, avec les déplacements à Paris, régulièrement, vous siégez de nuit, vous avez des commissions, des groupes de travail, des auditions. En un an, je ne suis pas allé au cinéma ni au théâtre à Paris, je vous garantis. Hein.
Donc ce non-cumul des mandats, vous pensez, a véritablement changé la façon de fonctionner, parce que jadis, le sénateur, on voyait le notable du coin, puis le notable un peu multicarte qui touchait à tout, qui avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, vous dites, c'est un boulot à plein temps.
Tout à fait. Ça a changé complètement le profil des sénateurs. Ça l'a féminisé aussi, permis d'avoir pas mal de femmes sénatrices, et c'est très bien. Et derrière, ça a permis de se doter d'élus qui exercent un réel métier, une réelle fonction quotidiennement sur des projets de loi. C'est un travail très fin, très pointu en matière de légistique. Donc il faut vraiment se plonger dans les textes, travailler à la virgule les éléments que l'on souhaite apporter, amender, modifier. Un gros travail en amont de concertation. Moi, ma méthode, elle est simple. Hein. Quand il y a un projet de loi qui est inscrit au calendrier du Sénat dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, si ce projet de loi concerne des problématiques que nous rencontrons dans le département de l'Aude, eh bien, en amont, je vais rencontrer des opérateurs qui peuvent être concernés, qui peuvent me nourrir, m'apporter de l'information, pour que derrière, lorsque je suis amené à intervenir lors de l'examen de ces projets de loi, j'apporte ou des amendements ou des ajustements en fonction de des problématiques locales que nous avons sur le département. C'est notre travail de faire remonter nos problèmes pour pouvoir les traduire par la loi.
Et là, vous rencontrerez d'autant plus facilement les maires, les élus, que ce sont les gens qui ont voté pour, justement, l'élection du sénateur.
Oui, oui, tout à fait. Mais même, je vais au-delà. Je travaille beaucoup pour le secteur agricole. J'ai rencontré les présidents de CAV, les vignerons, les éleveurs, tous les opérateurs agricoles, justement, pour connaître leurs sentiments et entendre leurs propositions de manière à pouvoir les relayer. J'avais la Fédération des Cumas il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai défendu un amendement la semaine dernière qui était proposé par la Fédération des Cumas qui me paraissait intéressant. J'ai été sensibilisé au projet de loi des finances de la sécurité sociale par les viticulteurs, les maraîchers, sur une exonération de charges des travailleurs occasionnels et des demandeurs d'emploi qui permettent pendant la saison sur des systèmes agricoles saisonnalisés d'embaucher beaucoup, mais ne peuvent pas les garder toute l'année, donc de les aider. Cet amendement est passé d'ailleurs la semaine dernière à une large majorité. Donc voilà, l'objectif c'est un gros travail de terrain en amont des lois, aller sur le territoire, rencontrer les gens,
et avoir du réseau. Et peaufiner finalement le produit final que sera la loi, si je peux me permettre cette image-là.
Oui, et défendre nos spécificités, parce que nous sommes des représentants territoriaux.
Évidemment, voilà. Aussi, vous êtes sénateur de l'Aude.
Des 436 communes de l'Aude, et je ne suis pas sénateur de la Manche, de la Meuse. Nous n'avons pas les mêmes problématiques et les mêmes solutions. Mmh. Donc il y a quand même un combat permanent lié à la spécificité de notre territoire. Et je me retrouve souvent avec les sénateurs du pourtour méditerranéen des Pyrénées face à des sénateurs de la Beauce, du Centre.
Avec des points communs et des intérêts et des soucis communs, bien entendu.
Tout à fait.
Et alors d'où vient le fait que le Sénat, souvent, les gens disent, bon, ils savent pas ou alors ça sert à rien. Rappelons quand même un fait historique que De Gaulle, en 1969, est tombé, entre autres, sur un référendum où il envisageait de supprimer le Sénat.
Je vais vous donner un chiffre pour vous prouver que ça ne sert pas à rien et qu'il est faux de dire que l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'un projet de loi est examiné au Sénat, dans 80% des cas, voire 85% des cas, le projet de loi qui est voté in fine à l'Assemblée nationale aura été amendé par le Sénat. Aura été ajusté par le Sénat. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça sert à rien, bien au contraire. Elle permet d'apporter, avec, je le rappelle, du recul, du temps et de manière très posée, des propositions et des solutions par rapport, bien souvent, à des propositions faites un petit peu dans la précipitation, dans l'immédiateté. Oui. Le Sénat a ce recul nécessaire.
Voilà, le recul et une lenteur cultivée parce que nécessaire.
Qui est nécessaire. Quand vous allez acheter une maison, un véhicule ou n'importe quoi, vous prenez le temps quand même de réfléchir si vous n'allez pas faire une bêtise ou si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Donc je prends cette image, mais c'est exactement pareil. Et je répète, je ne jette pas la pierre à l'Assemblée nationale.
Le type de fonctionnement.
Le type de fonctionnement est absolument différent, en fait. Oui, les sujets sont les mêmes, mais la manière de les aborder sont totalement différents. Et au Sénat, nous avons une expertise relativement intéressante et qui, bien souvent, est partagé de manière transpartisane. Bon, j'ai réussi, sur un certain nombre de dossiers, à défendre des positions qui ont été adoptées de manière transpartisane avec les Républicains, les centristes,
c'est-à-dire
les communistes.
C'est-à-dire qu'on s'affronte moins qu'à l'Assemblée.
Tout à fait. L'intérêt du territoire prime sur l'intérêt de chaque parti. Je ne vous dis pas qu'il n'y ait pas des frictions sur les sujets de société. Je prends la question de la PMA, le mariage pour tous, ces sujets-là, effectivement, sont très clivants. Évidemment, les mouvements politiques ne sont pas du tout d'accord. Par contre, sur des sujets quotidiens, des sujets économiques, nous sommes souvent en accord avec les autres mouvements.
Voilà, on marque une première pause, Sébastien Plat, et on revient dans une deuxième partie. Alors, sur des actions très concrètes, notamment les vôtres, vous en avez évoqué un tout petit peu en filigrane, mais on y revient avec plus de précision.